B.
B.
C.
Ma langue dans ta bouche. Ma langue dans ta bouche donne la parole aux citoyens du monde qui apprennent le français. Et ça fait de sacrées histoires.
Bonjour, je m'appelle Duncan Brady. Je suis en France depuis, je ne compte plus, mais ça devrait être 5 ans. Je suis marié avec une femme française et je suis bien installé en France. My name is Duncan Brady. I've been in France for about 5 years. Married to a French lady, and I'm bien installé, well installed in France.
Vous savez plus le dire en anglais là.
Yeah.
Ça se dit pas
oui.
Ou si.
Bien installé. Il y a des phrases que je connais bien en français que je ne l'utilise plus en anglais et il m'échappe fréquemment. La langue française, elle est très compliquée dans la grammaire. Donc, je pense qu'en France, vous étudiez le français, la langue française, de manière plus académique parce qu'il est plus compliqué.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le français au début?
Il devrait y avoir des raisons historiques dans le système d'éducation anglais, mais c'est juste ce qu'on fait. Je pense qu'on est des voisins.
Quand on est collégien en Angleterre, on prend souvent le français?
C'est 80. Moi, je dirais que 90% des cas, c'est le français qu'on fait à l'âge d'11 ans au collège. Puis on peut aussi prendre allemand, espagnol ou un autre, mais
comme
c'est
l'anglais
vraiment
ici.
C'est vraiment ça que tout le monde fait.
Vos souvenirs d'écoliers qui apprenaient le français
J'ai des bons souvenirs, mais bon, c'est il y a longtemps maintenant. Moi, j'étais très scientifique, donc c'était pas mon sujet que j'allais poursuivre plus tard, donc j'avais pas beaucoup de stress. J'apprenais, je faisais bien attention, je trouvais que c'était marrant de parler une autre langue et découvrir les règles. Oh, mais ça se dit comme ça et ça se dit comme ça. C'était plutôt intéressant et j'ai plutôt des bons souvenirs.
Et vous vous doutiez pas à l'époque qu'un jour ça vous servirait à ce point-là?
Pas du tout. Mais à l'âge de 16 ans, où il faut choisir nos matières, moi j'ai choisi des sujets scientifiques pour poursuivre ma carrière. Et ma prof de française, elle était une Française installée en Angleterre depuis des années. Elle voulait vraiment que je prenne le français comme un de mes 3 sujets. Je dis, pour mon parcours, c'est pas du tout adapté par rapport à ce que je veux faire. Moi, je veux être vétérinaire. Le français, je vois mal comment ça peut me servir. Mais c'était chouette depuis ces 5 ans. Et je pense qu'elle sera bien contente de savoir que finalement, je connais le français mieux.
Aujourd'hui, vous êtes vétérinaire.
Ben oui.
Vous travaillez donc sur Bourg-en-Bresse.
Oui.
Depuis quand vous êtes sur Bourg-en-Bresse?
Un peu plus qu'un an.
Et ça fait environ 5 ans que vous êtes en France. Donc, vous avez d'abord exercé en Angleterre.
Oui, pendant 9 ans.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez en France d'abord et à Bourg-en-Bresse ensuite?
Bon, en France, j'ai rencontré ma femme à une fête à Berlin entre copains, des copains en français et des copains anglais. On s'entendait bien, donc on a commencé à faire des allers-retours, moi en France, elle en Angleterre. Et au bout d'un certain temps, elle se dit, c'est chouette, mais ça ne te dit pas de venir déménager avec moi? Parce qu'on ne va pas rester comme ça pendant des années et des années. Je dis, oui, ça, on s'entend très bien, on va aller poursuivre ça. Et ça s'est bien terminé et on s'est mariés il y a 3 ans. Et on est très content et je suis très content d'être en France. Donc je suis venu en France pour la poursuivre. Voilà.
Vous avez poursuivi votre apprentissage de la langue en la poursuivant.
Oui. Voilà.
Pourquoi c'est pas votre femme qui est allée en Angleterre?
Ça m'intéressait bien de venir en France. Je compte bien rester. Bon, déjà, si vous voyez l'été en Angleterre, c'est pas tout ça.
Il paraît.
Il veut essayer. Je confirme. Je suis très bien en France. J'ai une grande, belle famille en France. Mes enfants sont petits-enfants numéro 15 et 16, la famille de ma femme.
Ouais.
Donc oui, on est bien installés, on est des gens, on est entourés par la famille. La France, c'est vraiment un pays béni.
Alors je ne vous ai pas demandé de quelle ville vous êtes originaire, mais vous m'avez dit que vous étiez originaire de plein
on d'endroits. On va dire sud d'Angleterre, on peut dire Cambridge.
C'est là où vous avez passé
faire
plus
simple.
De temps.
Oui.
Oui,
c'est... Oui, ton adolescent, oui.
Quand votre femme venait vous rendre visite, ou que vous veniez en France, vous parliez les deux langues, comment ça se passe?
On le mélange complètement, encore aujourd'hui. Elle a passé 2 ans à Londres, elle connaît bien l'anglais, elle utilise beaucoup l'anglais dans son travail, je dirais au moins 50% du temps. Et nos enfants, ils parlent français bien sûr, ils sont petits, 1 an et 2 ans et demi. Ils parlent français bien, mais ils parlent aussi l'anglais, ils comprennent. Bon, Ceux qui ont un an, c'est un peu juste, mais ceux qui ont 2 ans et demi, oui, ils comprennent très bien l'anglais. Ils répondent parfois en anglais. Ils s'habituent, si je ne le vois pas pendant quelques jours, si je travaille le week-end et je ne le vois pas, ils parlent beaucoup français à la maison. Il faut que je travaille un petit peu pour qu'ils redémarrent l'anglais. Mais oui, on mélange tout. Vous connaissez tous les deux à l'aise dans les deux langues. Et parfois, une phrase qui passe très bien en français. Parfois, on commence à dire une phrase en anglais et on finit en français parce que c'est nul. C'est nul. Dire quelque chose est nul. L'équivalent en Angleterre, est moins beau dans la bouche, il est moins clair. Je veux dire, c'est nul, c'est zéro, c'est ça ne vaut rien. Donc souvent je commence en anglais et je finis avec mais c'est nul ça.
C'est vraiment au feeling.
Elle aime bien parler anglais avec moi pour s'entraîner son anglais et moi j'aime bien parler français avec elle pour entraîner mon français. Avec les enfants, elle parle uniquement anglais, français, excusez-moi. Et moi j'essaie de parler uniquement anglais.
Vous essayez, donc vous vous forcez, quoi.
Me forcer parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de Français autour et moi je lui parle en anglais, voilà, on se sent parfois un petit peu mal à l'aise, les gens se regardent un petit peu, nous regardons un petit peu. Et parfois c'est la facilité de parler en français en fait.
Voilà, quand les gens comprennent que vous êtes anglais, quelles sont les réactions spontanées?
Ils disent, bah, vous parlez pas mal pour en anglais. Parfois, les gens un peu plus âgés, les hommes un petit peu plus âgés, parfois, ils me regardent un petit peu, ah, c'est un anglais. Mais en général, si on s'entend bien avec les gens, c'est pas quelque chose de très important.
Mais c'est marrant, vous dites, c'est un peu la facilité de parler en français alors que c'est pas votre langue maternelle, quoi.
Oui, il y a des choses qui viennent bien sûr plus facilement en anglais. Et, mais des phrases de tous les jours que j'emploie tous les jours, souvent ça vient plus facilement en français.
Dans votre métier, j'imagine qu'il y a quand même un vocabulaire spécifique. Comment est-ce que vous avez appris ce vocabulaire-là en français?
On avait le plan que je m'installe en France. C'était vraiment une des plus grandes trouilles de ma vie de devoir travailler en français. Et surtout, c'est un milieu où les gens s'inquiètent pour leurs animaux parfois. Et il faut quand même bien se présenter, être professionnel. Et c'était surtout, c'est pas travailler dans un supermarché, il faut vraiment se présenter correctement et donner les gens confiance. Donc ça m'inquiétait beaucoup. Donc j'écoutais France Inter tous les matins sur Internet et j'achetais quelques bouquins vétérinaires en français, une chirurgie, une médecine, et j'ai fait des listes de vocabulaire. Il faut dire, il y en a beaucoup qui sont similaires dans les deux langues. Les mots latins d'origine, la plupart des maladies. Faut inverser un petit peu les mots, mais on arrive à trouver les traductions.
Et oui, donc vous avez vraiment fourni un travail personnel quand même pour...
Au début. Et puis, dès qu'on voit que ça se passe pas trop mal, c'est vrai, j'ai des bouquins à la maison que je devrais consulter un peu plus de temps en temps, mais ça se passe plutôt bien, les gens me comprennent, les gens, en général, ils ont confiance en moi, donc oui, je devrais peut-être faire un petit peu plus de devoirs, mais avec les deux petits enfants, il y a plein de choses à faire à la
Oui, bien
maison quand
sûr.
même.
Et vous avez trouvé du travail facilement?
C'est un peu difficile, ouais, c'est
Alors, parce que vous étiez anglais ou parce que c'était de toute façon difficile? Est-ce
parce
que...
que c'est un peu difficile
D'accord.
parce que je connais pas le milieu. J'ai pas tout un réseau de gens avec lesquels j'étais à l'école. Donc il faut tout apprendre depuis le début. Et oui, il fallait travailler un petit peu pour aller chercher du travail. Mais j'ai un peu d'expérience, donc déjà j'avais ça dans ma faveur. J'avais déjà 9 ans d'expérience en Angleterre. Et oui, j'ai toujours arrivé à trouver du travail. Et moi, je suis assez bien installé à Clermont-Matin maintenant. Et ouais, ça se passe bien. Je suis bien content là.
Les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous amènent leur animal pour la première fois, quand ils comprennent que vous êtes anglais, parce que malgré tout, on l'entend, même si vous parlez super bien, vous avez heureusement encore ce petit accent. Quand ils comprennent que vous êtes anglais, quelle est la réaction des gens?
Ah, au général, ils sont plutôt concernés par ce qui se passe
C'est-à-dire...
avec leurs animaux,
Ah oui,
si
ils ne
c'est
comptent pas
pas.
du tout sur votre personnel.
Ça arrive à la fin, si on n'est pas trop pressé pour le temps. Ils disent souvent, bah, vous avez un petit accent, sans indiscrétion. Et c'est toujours un plaisir de dire, bah, je suis britannique. J'aime bien aussi quand les gens, ils essaient de trouver de mon origine. Bah, vous êtes suédois, vous êtes américain, vous êtes.
Suédois, ah
Ouais,
bon?
j'ai eu un peu de tout. Mais en général, les gens, ils se rendent compte que je suis anglais. Quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé dans le Marais, à Paris, dans le 3e arrondissement. Et les gens sont très polis. C'était très bien d'apprendre à parler français avec des gens qui se tenaient bien, bien se présenter. Et souvent, je disais, quand les gens arrivaient, en français, on dit « installez-vous, monsieur, madame ». Et moi, j'ai fait la traduction directement depuis l'anglais, qui est « take a chair ». Je disais « monsieur, prenez une chaise ». Et le monsieur m'a regardé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il est allé prendre une chaise et l'amener dans la salle de consultation. Et les filles au travail m'ont dit, mais non, 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 ça se dit pas comme ça en français. C'est installez-vous, monsieur. Comment prononcer mon nom en anglais et en français? Parce qu'il y a quand même une différence. En français, je dis Duncan. En anglais, je dirais Duncan. Duncan. Et pour le nom de famille, c'est pareil, c'est différent. En anglais, on dit Brady. En français, je dis Brady. Ben oui, moi, je suis installé pour rester. Je ne vais pas demander à tout le monde de prononcer des mots bizarres. Je trouve c'est marrant que ça doit arriver partout dans le monde, que les noms de famille des personnes, quand on vit dans un autre pays, on ne peut plus prononcer dans la même manière parce que les gens ne comprennent pas. On parle pour se comprendre. Donc oui, mes enfants, ils ont été toujours connus sous le nom Brady. Et moi, je suis né Brady. Duncan Brady. Duncan Brady. Il m'est arrivé d'essayer d'expliquer aux gens tout au début Duncan Brady. Et il disait vraiment n'importe quoi. Duncan. Duncan. Donc si je donne une prononciation française, ça passe mieux. Ça ressemble plus à mon nom. À mon avis, on ne rêve pas dans une langue. À mon avis, on rêve en image, en idée, en concept. Et je pense que c'est après que quand on commence à raconter une rêve à quelqu'un, qu'on dit bah ça s'est passé comme ça. Mais à mon avis, il y a les concepts, les mots, ils sont en façon de communiquer avec d'autres personnes, des concepts, des idées qu'on. Je pense que même quand on réfléchit, bah oui, on réfléchit partiellement aux mots, mais souvent on a du mal à s'exprimer sur un sujet. On a l'idée qu'on veut exprimer, mais on trouve pas les mots. Pour moi, ça m'a dit que c'est plutôt des idées.
Alors, on dit souvent que le français était une langue très riche au niveau du vocabulaire, qu'on avait beaucoup de mots, et ces mots n'avaient pas de similaire dans les autres langues. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment plus de vocabulaire en français pour dire les choses
ou... Je pense que c'est l'inverse. Je pense que l'anglais est une des langues avec la plus grande vocabulaire. Et en français, il y a beaucoup de jeux de mots. Et souvent, c'est parce qu'il y a un mot qui a deux, trois significations. Et on peut faire le jeu de mots là. En anglais, je pense qu'il y a un peu moins de jeu de mots. Et mon expérience, c'est qu'il y a plus de vocabulaire pour exprimer la même idée en anglais.
Et est-ce que vous arrivez à faire des jeux de mots?
Pas très bien. Pas très bien du tout.
Finalement, c'est vrai, quand on arrive à blaguer, à faire des blagues dans une langue, on se dit, là, je maîtrise la langue.
J'arrive, mais avec les blagues d'adolescents. Les blagues d'un enfant de 12 ans. Bon, c'est pas très abouti.
En tout cas, le jeu de mots du titre de l'émission, vous l'avez compris. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir ma langue dans ta bouche?
C'était un plaisir.
Ah bah, merci. Merci bien.
Merci à vous, Caroline.
Retrouvez Ma langue dans ta bouche sur Tropic FM 90.0 le deuxième lundi de chaque mois à 12h45, le lendemain à 7h45 et quand vous le voulez grâce au podcast sur tropicfm.org. This is a happy end.